Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Aujourd'hui, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du monde du travail, nous allons revenir sur l'allocution du président Macron. Cette allocution a été présentée comme étant la conclusion du grand débat dont il a pris la parole le 25 avril à la télévision. Alors tout d'abord, en introduction, puisque c'était soi-disant la conclusion du grand débat, il a commencé par salir et dénigrer le mouvement des Gilets jaunes, qu'il assimile à des casseurs, à des violents, à des racistes, etc. Alors que ce mouvement est le contraire dans son immense majorité. Alors la ficelle est bien grosse, il y a des méchants, ils sont désignés et ils sont en jaune, d'après notre président Macron. Il a ensuite dit et répété qu'il avait compris beaucoup de choses pendant ce grand débat, pendant ses déplacements. Il a parlé des souffrances des Français. Tout ça pour finir par dire, dans son introduction, que son cap qu'il avait pris il y a 2 ans, que ses décisions étaient prises, étaient les bonnes. Donc il a commencé par dire qu'il fallait continuer dans le même sens qu'il avait commencé. Donc nous avons un président qui nous dit qu'il ignorait précédemment le sort de la population, puisqu'il nous a expliqué qu'il l'avait découverte. C'est intéressant quand même à savoir. Puis ensuite, il dit qu'il n'a pas fait fausse route, il répétera à plusieurs reprises. Au passage, vous serez ravis d'apprendre qu'il dit que le pouvoir d'achat va mieux. Donc au moins, il y aura quelqu'un qui l'aura constaté, c'est lui. De même que l'emploi dans l'industrie est également amélioré. Alors moi, j'aurais pensé le contraire, que l'emploi dans l'industrie se dégringolait compte tenu de nombreuses fermetures d'entreprises. Eh bien non, lui, il constate le contraire. Au sujet des propositions, son discours est construit de façon complexe, volontairement, puisqu'il passe de constat à la compassion, mais la compassion, ce ne sont pas des propositions, et il est difficile de faire la part des choses. L'objectif est de nous faire confondre incantation et décision. Alors, ce que je comprends, moi, surtout, c'est qu'il a voulu gagner plusieurs mois avec ce grand débat national et faire un discours de monarque en campagne électorale à un mois des élections européennes. À noter d'ailleurs que c'est la première fois qu'un président de la République en exercice fait une allocution centrée sur sa personne, puisqu'il parle de lui essentiellement, ou plutôt centrée sur son nombril. Donc c'est assez extraordinaire, ça s'était jamais vu. Donc il parle de lui, de ses idées, etc. Il est le centre du monde. Pour ce qui est des bonnes décisions, c'est assez compliqué, puisque d'une part, vous repasserez plus tard, soit en 2020, soit en 2021, soit en 2025. Encore faudrait-il qu'elle ne soit pas, en fin de compte, en trompe-l'œil. On va y revenir, puisqu'il y a des effets d'annonce, et quand on y regarde de plus près, ça ne colle pas avec un sens positif. Alors le président flatte les maires. Il flatte le tissu associatif, hein, il commence par ça, mais aucune mesure positive en ce qui concerne tant les maires que le tissu associatif. Le président trouve aussi des coupables. Alors les coupables, le coupable à ses yeux, ce ne sont pas les ultra-riches, ce n'est pas le capitalisme financier, non, ce sont les hauts fonctionnaires qui sont livrés dans l'arène à la vindicte du peuple. Monsieur Macron veut faire la peau à l'ENA et aux fonctionnaires, on le comprend bien, il développe ce point-là pour faire en réalité, et ça il ne le dit pas, rentrer encore davantage des cadres formatés à la logique du privé dans les services de l'État. Alors je vais essayer de chapitrer son discours qui a sauté souvent du coq à l'âne, affirmant souvent tout et son contraire, mais bon, comme j'ai pris des notes, j'ai pu remettre les choses un petit peu de façon pédagogique, tant faire que se peut. Alors, Premier point sur l'urgence climatique. Alors, il dit lui-même urgence climatique. Donc ça, au moins, c'est intéressant à entendre. Mais c'est assez simple. Il part de l'urgence, mais il n'y a aucune décision. À part de créer une commission de 150 citoyens qui seraient tirés au sort et qui feraient des propositions pour l'automne. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais De Gaulle disait « Quand on veut enterrer un problème, on crée une commission ». C'est un peu ce qu'on voit là. En clair, il cherche encore à gagner du temps, alors que les solutions, ce qu'il faudrait faire, eh bien, cela est connu depuis fort longtemps. Comment peut-on imaginer que le ministère de l'Environnement serait ignorant et sourd à ce point de ne pas entendre les exigences pour notre planète? C'est vraiment, de ce point de vue-là, nous prendre pour des imbéciles en renvoyant à une commission après une soi-disant conclusion, finalement, de ce grand débat. Alors, il y a un autre tour de passe-passe dans le domaine, c'est qu'il annonce pour la transition écologique une décentralisation. Alors, autrement dit, la décentralisation, ça a des intérêts, mais dans le domaine, ça veut dire, en clair, responsabiliser en bas, bien sûr, mais surtout déresponsabiliser en haut. Or, notre planète a besoin de décisions majeures. Les décisions majeures ne se prennent pas avec la décentralisation. Voilà sur un des premiers points qui était la question de l'urgence climatique. Alors, sur le service public maintenant, à une question qui sera posée plus loin par une journaliste, il confirme la décision de supprimer 120 000 fonctionnaires. Donc, cette décision est maintenue. Il ne dira pas un mot sur les privatisations en cours. Son cap, comme il l'a dit précédemment, est maintenu. Alors, il y a un effet d'annonce sur le service public, puisqu'il dit que chaque canton devra disposer d'un accueil baptisé désormais France Service dans chaque canton. Alors, il le dit lui-même, ça reprendra un peu ce qui existe déjà partiellement, à savoir les maisons de service public. Donc, c'est cette idée-là qui reprend, qui est déjà largement mise en œuvre. Donc, en termes d'annonce de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau si ce n'est de débaptiser. Mais par contre, quand on l'écoute bien, ça va plus loin que ça, puisqu'il parle d'amalgame, enfin c'est moi qui le dis amalgame, mais il parle aussi, il fait la liaison avec l'accueil des mairies, qu'il met dans ce France Service, il fait la liaison avec la caisse d'allocation familiale, et il fait la liaison avec Pôle emploi. En fait, ce serait donc une concentration des services publics, et on comprend mieux par rapport à l'annonce de la suppression de 120 000 fonctionnaires. D'ici à ce que ce soit à la charge des mairies, il n'y a pas des kilomètres, puisque pour lui, France Service, ce serait tout dans le même tuyau, les mairies, la Sécu, Pôle emploi et ce qui existe déjà, des maisons de services publics. On voit là qu'il y a matière à s'inquiéter puisqu'il s'agirait davantage de supprimer que de déployer. Pour ce qui est des fermetures d'écoles et des hôpitaux, les maires disposeraient désormais d'un droit d'opposition. Mais pas un mot sur les décisions qui sont en cours d'application. Donc ça, il n'en parle pas. Et pas un mot sur le maintien des financements et des services en cas de rejet des projets de fermeture par les mairies. Si on prend l'exemple des hôpitaux, c'est assez simple. Une mairie pourrait s'opposer à la fermeture d'un hôpital, mais ne pourrait pas s'opposer à la fermeture du service de gérontologie, du service de cardiologie, du service obstétrique, etc. Donc, il conserverait en quelque sorte le moyen de vider donc les hôpitaux de leur contenu. Donc, on voit bien la ficelle également de ce côté-là. Alors, autre chose, sans vouloir le préciser, il dit qu'il y a trop d'organismes de services publics et donc il faut en fermer plusieurs. Mais à une question de journaliste, mais lesquels, il refuse de répondre en confirmant qu'il y aurait des organismes publics, selon lui, qui ne serviraient à rien. Alors, à rien de son point de vue, puisqu'en fin de compte, là encore, il s'agirait de refiler ses services au privé. Alors, je pense personnellement à la météo. Je pense personnellement à l'INSEE qui serait peut-être complètement privatisé, plutôt abandonné au profit des instituts de sondage, peut-être des choses comme ça qu'il a en tête. Il a refusé d'en dire davantage. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose une petite pause musicale pour respirer un peu. Alors, la question la chanson du jour, eh bien, cette chanson du jour, moi, j'en voyais qu'une. Je voyais une chanson qui faisait relation avec le fait que tout allait bien et aussi un discours de monarque. Alors j'ai choisi « Tout va très bien, Madame la Marquise ».
Allô, allô, James, quelle nouvelle ! Absente depuis 15 jours, au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ?
Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise. On déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise. La mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, 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 ah, allô, allô, Martin, quelle nouvelle ? Ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit ?
Cela n'est rien, Madame la Marquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise. On déplorait tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô? Allô, 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 Pascal, quelle nouvelle ? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, vous, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé ?
Cela n'est rien, Madame la Marquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise. On déplorait tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Tout va bien, hein?
Allô, 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 Lucas, quelle nouvelle ! Votre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit ?
Eh bien voilà, Madame la Marquise, prenant qu'il était ruiné. À peine fut-il revenu de sa surprise que Monsieur le Marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qui renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma du bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea à l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument.
Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Je reviens donc sur la locution du président Macron du 25 avril. Donc, il a évoqué la fiscalité. Alors, l'évasion fiscale, il en a parlé. Mais pour dire qu'il allait renvoyer finalement ce sujet à la Cour des comptes qui serait chargée de faire des propositions. Alors donc, on a attendu 4 mois la conclusion du grand débat pour finalement avoir une absence de décision. Là encore, il renvoie à d'autres. hein, et il feint de découvrir et il veut gagner du temps. Alors en ce qui concerne l'ISF, l'impôt sur la fortune, là encore il cherche à gagner du temps puisqu'il dit qu'il faudra attendre 2020 pour faire une évaluation. Le président réexplique sa théorie, qui est ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, à savoir que plus il y aurait de très riches, plus ceci permettrait finalement de créer des emplois. Alors cette théorie, on la connaît bien, cette théorie du ruissellement, elle ne se vérifie pas historiquement dans aucun pays du monde, au contraire. Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup d'ultra-riches, et c'est un des pays où il y a le plus de très pauvres. C'est vrai en Inde, c'est vrai en Chine, c'est vrai partout. Lorsqu'il y a beaucoup d'ultra-riches, plus il y a d'ultra-riches, plus il y a de très pauvres. Alors le président a fait un tour de passe-passe sur les tranches d'impôts, puisqu'il y a eu un effet d'annonce de créer une nouvelle tranche d'impôts. Mais pas une tranche supérieure, une tranche à l'intérieur de ce qui existe déjà. Alors, en clair, il faut comprendre que l'impôt pour les riches, qui est aujourd'hui plafonné à 45%, ne va pas finalement augmenter. Ça va rester en plafond de 45% maximum. Alors, il faut se rappeler tout de même que cet impôt, il a été jusqu'à 65% pour les très riches et il a été progressivement rabioté par Hollande, puis par Sarkozy. Et évidemment, Macron, finalement, maintient ce plafond bas, finalement, d'impôt sur les revenus pour les très riches à 45%, alors que, comme je viens de le dire, il a été par le passé nettement au-dessus. Alors, sur la fiscalité, le tour de passe-passe, c'est aussi de parler uniquement sur l'impôt, de l'impôt sur le revenu. Alors, que en réalité l'impôt le plus important en volume en France, qui à lui tout seul représente la moitié des rentrées fiscales, eh bien c'est la TVA à 20%, et là-dessus, pas un mot, pas de décision de baisse de cette TVA, en particulier pour les produits de première nécessité, comme ça a été réclamé par nombre de gilets jaunes. Voilà pour ce qu'il en est de la fiscalité. J'ai essayé aussi de synthétiser la question des salaires et des pensions. Alors, pour les chômeurs, c'est simple. Il insiste sur les devoirs de ceux-ci. On comprend qu'il veut encore continuer à faire la chasse aux chômeurs. Alors, il faut rappeler quand même que par rapport au nombre de chômeurs en France, il n'y a que 20% en volume d'offres d'emploi correspondantes. Autrement dit, 80% des chômeurs en volume n'ont aucune perspective. Donc chasser les chômeurs, c'est bien une décision politique détestable, puisqu'on voit bien qu'on ne leur propose pas, dans leur grande majorité, de véritables solutions. En ce qui concerne les retraités, il faut rappeler que les pensions étaient historiquement indexées, mais sur les salaires. C'est tout à fait différent, comme il le propose, d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation officielle, qui est, comme chacun sait, fort contestable. Donc l'indexation sur les salaires avait le mérite de prendre en compte les évolutions de notre société. Sur l'inflation officielle, c'est tout à fait différent. Pour en rajouter, cette annonce finalement est décalée dans le temps. Alors évidemment, on ne parle pas de rattrapage, on parle simplement dans un premier temps pour les petites retraites d'une indexation en 2020 et allez savoir pourquoi pour les autres à une indexation en 2021. Ça veut dire qu'on va perdurer dans la baisse du pouvoir d'achat pour les uns et pour les autres. Alors pour ce qui est des retraités des professions libérales, il fait une déclaration de compassion, il parle même de 1000 euros minimum, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une décision. En ce qui concerne les salaires, il faudrait travailler plus. Alors là c'est clair, on parle de salaire, il nous répond travailler plus. Pour le reste, le président explique finalement que les salaires finalement seraient en opposition avec la compétitivité, alors que chacun sait que les salaires, eh bien, ça se dépense et que c'est bon pour notre économie. Mais lui, il a toujours cette logique conservatrice de considérer que finalement que les niveaux de salaire seraient nuisibles finalement au développement économique, alors que c'est tout le contraire. Donc ça, il le dit clairement, c'est une position ultra-libérale. Il n'y a pas que lui qui l'a, mais au moins son discours ni droite ni gauche, là on voit clairement qu'il est très à droite. Alors, il se refuse à parler salaire et il fait un certain nombre de tours de passe-passe avec l'intéressement et la fiscalité, mais rien non plus sur la question des emplois précaires. Ce ne sera cité nulle part dans son discours. Donc, sur les salaires, circuler, il n'y a rien à voir. En ce qui concerne le départ en retraite, pour une fois, le président est clair sur l'âge de départ. Les 62 ans vont rester, mais sur le papier. Il faudra travailler au-delà, car le niveau de la pension n'assurera pas une retraite décente. Là, au moins, on peut dire que sur son discours, c'était assez clair, et Macron se paye le culot d'intituler ça tranquillement le libre choix, c'est-à-dire le libre choix soit de partir à 62 ans et de crever de faim, soit de continuer si l'état de santé encore peut le permettre. Au passage, pour justifier sa politique, Macron fait deux affirmations mensongères sur la retraite. La première, c'est de dire que les Français travaillent moins que dans d'autres pays. Non seulement c'est inexact en plus, mais surtout c'est la productivité qu'il faut comparer davantage que la durée du travail. Or, la France, en matière de productivité, est une des meilleures du monde. Donc nous avons, en matière de productivité, parmi les meilleurs chiffres au monde. Donc de toute façon, c'est la productivité qu'il faut comparer, et pas la durée du travail, qui, quand on regarde de très près en Europe, est quasiment la même, c'est tout à fait marginal, les différences sont marginales. La deuxième affirmation fausse, mensongère, est d'affirmer que l'espérance de vie a progressé. Alors, elle a progressé, l'espérance de vie, mais si on compare à plusieurs décennies en arrière, si on regarde les 5 dernières années, et si on regarde en particulier pour les catégories ouvriers, employés, hommes et femmes, elle stagne depuis 5 ans, et elle recule même de 0,2 pour les femmes ces 5 dernières années dans les catégories ouvriers employés. Donc l'espérance de vie globalement pour les catégories des travailleurs ne progresse plus, si tant est que ce soit un argument, puisque le bon argument ce serait de comparer finalement aux richesses, aux possibilités finalement en termes de richesse et pas aux possibilités en termes d'espérance de vie. Quand je dis richesse, j'entends bien répartition de la richesse. Alors Macron, sur son allocution, ne va pas se contenter finalement de répondre à côté d'un certain nombre de grands sujets, il va en inventer. Il va en inventer à des fins purement électorales. À des fins purement électorales, alors que c'était pas venu ou très peu dans les cahiers de revendications du grand débat, il ouvre une politique sur la laïcité, pour détourner les revendications, finalement portées par les Gilets jaunes et les autres, portées massivement. Il cite avec virulence l'islamisme politique, alors pourquoi pas, mais là où il n'est pas honnête, c'est que en fin de compte, il oublie les autres extrémismes, qu'ils soient catholiques, de religion juive ou autre, il n'y a pas que l'islamisme politique qui pose problème, les extrémismes religieux violents posent problème, et c'est les autres, il les ignore complètement. Il fait aussi un discours sur les migrations, ce qui est aussi pratiquement pas venu dans les cahiers de doléances et les sujets du grand débat, c'est quasiment pas venu, et il fait un discours assez virulent dans le domaine, hein, un discours très à droite. Il invente une formule répétée à plusieurs reprises, donc il la répète à plusieurs reprises. C'est donc pas un hasard, je la cite, l'art d'être français. Alors cette formule a pour but de servir de baguette magique pour expliquer finalement les contestations. Non seulement c'est ridicule, non seulement l'art d'être français c'est une expression idiote, mais c'est surtout une posture typiquement d'extrême droite. Donc Macron va mordre finalement, ça me fait penser un peu au discours de Pétain, je suis désolé de le dire, hein, sur finalement l'art d'être français, ça ne veut rien dire, et il va sur ce terrain-là. Alors une bonne nouvelle quand même pour finir cette chronique, eh bien le plein emploi, si on fait comme il a dit, est atteignable en 2025. Vous aurez donc le choix de le croire ou de ne pas le croire. Pour ma part, je me souviens de sa promesse de campagne, une parmi tant d'autres, de ne plus avoir de SDF, par exemple, dans nos rues, hein, et de régler cette question de la grande pauvreté. Ça fait 2 ans maintenant, chacun peut mesurer sur ce point ce qu'il en est. Voilà pour ce qu'il en est des promesses et de l'allocution donc de notre président de la République en réponse à ce qu'il avait lancé lui-même ce grand débat. Je vous laisse réfléchir à tout ça. À bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Coélus.
C'est le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.
Oh,